Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez The Free Agent. Et aujourd'hui, ce n'est pas Chris ni Charles qui commentent. Du coup, on les a laissés dans le dugout. Place aux joueurs de banc, voilà, au second couteau. Qui n'ont pas le moindre, on va dire, verbe acéré pour parler de nos équipes américaines favoris. Donc, on se retrouve avec Nico aujourd'hui. Salut Nico.
Salut Jérém, salut tout le monde.
Et moi, voilà, Jérémy. Donc aujourd'hui, on va parler de quatre thèmes qui vont, on va diviser comme un peu au basket, quatre cartons de 12 minutes, en gros un quart d'heure pour parler de quatre thèmes que l'on a choisis avec Nicolas. Ils vont être très très simples, il y a des grosses écuries, il y a des surprises. Voilà le sommaire, donc on va commencer par nos fameux Yankees de New York, avec une question, est-ce un favori légitime cette année ? Le second thème sera chez les Braves à Atlanta. Est-ce que cette année, en 2024, ce sera la bonne année pour eux ? Direction le désert et le Texas avec les Texas Rangers, les champions en titre. Est-ce qu'ils vont réaliser le back-to-back cette année ? Et enfin, la surprise, les Diamondbacks de l'Arizona. Où Nico a relevé une petite question sympa. Simple hit automnal ou la naissance d'une équipe taillée pour l'après-saison. Donc voilà ce sommaire qui est passé. On va pouvoir commencer par les Yankees. Donc les Yankees qui ont fini, je le rappelle, l'année dernière, 4e sur 5, avec un bilan de 82 victoires pour 80 défaites. Donc du coup, les vacances pour eux ont été fin septembre. Là, cette année, on voit surtout des recrues de choix, on peut le dire, avec étonnement parfois. Je veux parler de Juan Soto, si tu me rejoins, Nico.
Ah oui, bah, on s'attendait pas à ce que...
Et même de Marcus Stroman.
Voilà. On savait qu'il partirait, mais...
Voilà. Est-ce que pour toi, c'était une surprise d'avoir lu Juan Soto, on va dire, qui part chez les Yankees ? Parce qu'on le rappelle, il a eu un contrat record chez les Padres l'année dernière. Et bien, du coup, il a fait l'aller-retour, West Coast, East Coast, vite fait. C'est vrai qu'en soi, pour l'instant, Juan Soto, on ne sait pas sur ce qu'il veut faire, en fait, concrètement. Est-ce que, Nico, toi, pour toi, Juan Soto, c'est l'ajout de choix pour les Yankees cette saison, sachant que là, on le voit un peu sur le spring training, où on commence à avoir une bromance entre Aaron Judge et Juan Soto.
Bah c'est de toute façon, peu importe l'équipe qui récupère Soto, ça reste toujours un ajout majeur. Là, tu renforces un line-up qui est quand même composé de Stanton, de Judge, de LeMahieu quand il est en forme. Là, tu rajoutes Juan Soto, en fait, Anthony Rizzo. Ça commence à devenir du très très lourd, quoi. Alors, pour rejoindre ta question tout à l'heure, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on sait que les Yankees, voilà, c'est un petit peu dans les bruits de couloir qui surveillaient la situation de Juan Soto. Donc, surprise, oui et non. Un peu décevant la façon, comment ça s'est fait parce qu'en fait, il est parti chez les Padres et il a tenté l'aventure un an et demi, on va dire, et pour repartir ailleurs. Donc, un petit peu décevant, je trouve, parce que je pense qu'il aurait pu tenter quelque chose avec les Padres et insister, ça n'a pas marché. Bon, après, il est parti chez les Yankees. Et c'est forcément un gros atout pour les Yankees.
Ok, on rappelle Juan Soto, un petit contrat de 1 an et 31 millions de dollars. Bon, 31 millions de dollars, c'est pas petit comme chiffre. De ce qu'on peut rajouter sur le contrat sur notre site SpotTrack, 1 an, 31 millions. Il n'y a pas de clause particulière de bonus sur des frappes, sur des home runs, sur des garanties. Là, pour l'instant, on est sur du classique. Donc Juan Soto chez les Yankees, ça a apporté quand même du volume en outfield. Voilà, comme tu me disais, Nico, il rejoint Aaron Judge. Giancarlo Stanton, l'année dernière, la saison, vraiment compliqué. Limite, certains matchs, il n'avait vraiment pas envie de jouer. Il n'avait vraiment pas envie de jouer. Ça se voyait sur certains matchs. Les fans n'étaient pas contents. Il sera rejoint aussi par Alex Verdugo. Voilà. Alex Verdugo qui fait la transition, qui fait la transition Boston-New York. Voilà, comme un certain Babe Ruth à l'époque. Hein, voilà. Je ne dis pas que c'est le prochain Babe Ruth, mais voilà, beaucoup ont fait le voyage dans ce sens-là ou dans le sens inverse, effectivement. Pour ce dossier Juan Soto, on a eu aussi l'excellente surprise. Alors, on l'a vu jouer l'année dernière avec les Cubs, nous, à Londres. On a eu la chance de le voir jouer. Bon, ce n'était pas son meilleur... on va dire Star. Je veux parler de Marcus Stroman. Marcus Stroman qui a signé un contrat de 2 ans et de 37 millions de dollars. Voilà, Marcus Stroman qui rejoint notre Cy Young de l'année dernière, Gerrit Cole. Donc qui est, vous l'avez bien compris, l'ace de cette année. Marcus Stroman, Nico, numéro 2 incontestablement.
Moi, je pense que ce sera plus numéro 3, numéro 2. Tu mets Nestor Cortés, je pense. Il est déjà bien installé.
Tu crois qu'il fera une aussi bonne saison que l'année dernière ? Ouais.
Mais il reste sur une très grosse saison. L'année dernière, c'était un petit peu en dents de scie. Mais ça reste quand même un super lanceur. Et je pense qu'il est bien installé. Je le vois bien rester en numéro 2. Après, je peux me tromper, hein, je ne sais pas trop. Et Stroman en 3. Après, Stroman, il a... Alors, il a fait une très bonne saison les dernières, mais il est très irrégulier. Il peut sortir un match dantesque et derrière faire un match où il ne lancera que 2-3 manches parce que en fait, il va se trouver complètement. Donc, pour avoir pas mal suivi les Cubs moi, de l'année dernière, je sais que c'est un très bon lanceur. C'est, je pense, une bonne chose pour les Yankees qu'il ait récupéré. Maintenant, ouais, je pense dans la rotation, je le vois bien en numéro 3. Voilà, surtout en plus, maintenant, il y a Luis Severino qui est parti, donc ça va. Ouais. C'est une place en plus. Faut espérer pour lui qu'il ne connaisse pas non plus une saison avec des blessures. On a vu que l'année dernière, il a terminé la saison blessé. Ça a coûté, ça a peut-être coûté aussi un peu leur place aux Cubs en wildcard. Donc, niveau santé, c'est. Je sais pas comment trop le situer en fait. Après niveau qualité baseball, le lanceur c'est un super ajout pour les Yankees. Je pense qu'ils ont une rotation maintenant qui va quand même être plus que sympa à regarder avec le Cy Young, Cole, Nestor Cortés, Stroman, Rodon. On sait pas trop comment ça va être. Pareil, lui il a connu une saison galère l'année dernière. Et donc s'il revient, ça peut être quand même ça peut faire très très mal aussi. Donc moi je trouve que c'est un bel ajout pour les Yankees et à voir.
Ok. Pour la petite info, Marcus Stroman, il a une clause dans son contrat en 2026, donc dans 2 ans, où en fait sa clause de 2026 sera activée si en 2024 il lancera 140 manches. Voilà pour la petite info. Donc, il va falloir qu'il aille au charbon. En gros, s'il fait je ne veux pas dire des matchs complets, mais on va dire sur un bon partant, allez, on va se tabler sur 7 manches en soi. Voilà, il va falloir qu'il fasse quand même 20 matchs. Alors, en étant numéro 3, voilà, 20 matchs, on va dire, à 7 manches. Quoi. Voilà. En moyenne. Et comme ça, il pourra jouer en 2026 et avoir une clause de contrat. Voilà pour la petite parenthèse sur Marcus Stroman. Après, pour en revenir à Nestor Cortés, c'est vrai qu'il a fait une saison en dents de scie. Sa meilleure saison a été 2022, c'est là où on l'a découvert hein, finalement. Ouais. Il arrive dans le top 8 Cy Young, il est All-Star avec un ERA 2,44 en 2022. Là, en 2023, à 4,97, il a lancé que 63 manches. Donc, on est sur une année 2023 qui n'est pas forcément le top quoi, pour lui, tu vois.
Stroman, l'année dernière, c'est 10 victoires, 9 défaites, 3,95 d'ERA, 119 strikeouts. Donc ouais, c'est pareil. C'était le même, je pense, le même profil que Nestor Cortés. Hein. C'était très, très aléatoire, quoi. On a vu des matchs. Il a fait un match entier, je crois. Il avait lancé 9 manches. Et
Neuf.
après, le match d'après, je crois qu'il sort à la 5e manche, quelque chose comme ça. Donc c'était très
Ouais.
irrégulier. Donc voilà, c'est un peu le problème de Strowman. C'est un peu dommage. Parce qu'après, il a des qualités. Qui sont quand même
Oui.
vraiment, il a pas mal une belle panoplie de lancers, donc c'est
Ouais,
intéressant.
bah ouais, c'est pareil, hein, on rejoint sur Carlos Rodon en 2022, comme Nestor Cortés, il arrive top 6 au Cy Young, All-Star aussi, avec une ERA à 2,88 en 2022, et l'année dernière, chez les Yankees, il tape à 6,85. Honnêtement, quand on voit les chiffres maintenant, au Nico, d'accord ou pas d'accord, enfin pour moi, vraiment dans les chiffres, c'est en 1, Gerrit Cole, en 2, Stroman, en 3, Nestor Cortés, en 4, ça sera Carlos Rodon. Et en 5, eh ben, quelqu'un qui va pouvoir, on va dire, prendre sa place pour les partants directement. Voilà. Moi, en lisant les chiffres hein, actuellement hein, de l'année dernière.
Ouais, ça après,
Donc,
oui,
après, ça, c'est un
c'est
classement
plus à
qui
se mettre dans
sera
ce sens-là.
plausible.
Ouais. De toute façon,
Ouais, à voir.
on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que c'est deux profils, enfin, c'est deux joueurs avec des stats à peu près similaires, Cortés et Stroman. Donc, ouais, ça peut aussi le faire aussi, Stroman en deux. Il était en deux, enfin, ouais, il était en deux chez les Cubs, parce que Steele, lui, était devenu l'ace, clairement. Et il était en deux, ouais, chez les Cubs, donc ouais, ça se tient aussi, ouais.
Ouais. Donc à pas oublier aussi et ça je l'ai vu dans pas mal de choses c'est vrai que parfois j'ai lu la dernière partir c'est Michael King aussi donc il a été beaucoup plus releveur voilà que partant hein. Mais donc parfois le
Ouais, il était
management
en
n'a
deux
pas
quatre.
été on va dire pas été le top du top avec Aaron Boone donc voilà on a fait notre petit classement des lanceurs partants. Maintenant, à voir comment ils vont, on va dire, progresser au début de la saison, voir comment l'équipe va tourner. Voilà, avec un petit rappel, là, à mon avis, le groupe vit bien parce que Juan Soto est pote avec Aaron Judge. Je pense que la hiérarchisation se fait. Le Captain Judge, voilà, il est là pour, bah, pour comment dire, ramener ses troupes dans le droit chemin. Voilà, Gerrit Cole ultra favori. Donc, je pense que ils peuvent tirer leur épingle du jeu, hein, sans forcément basculer sur le côté de. Ben, on va parler des Orioles, mais franchement, là, dans l'American League Est cette année, ben, les Yankees, pour moi, ça va jouer dans la. Alors, je vais pas dire le top 1, mais la deuxième place ou troisième place, quoi. Voilà. Pour moi, pour en
Bah,
finir avec toi, Nico, sur ça.
si tu prends sur le papier, en vrai, non, enfin, sur le papier, les Yankees, c'est les favoris. Quand tu vois les noms qu'ils ont alignés, on est d'accord pour dire que les Orioles, c'est super prometteur, surtout ce qu'on a vu l'année dernière, même en playoff et tout. Mais juste si on parle baseball et qu'on regarde les noms, les Yankees, pour moi, sont des favoris légitimes. Après, il y a toujours ce problème-là, et c'est un peu récurrent chez les Yankees, c'est que chaque année, en fait, on le pense, mais chaque année, en fait, il y a ce problème de blessure, et de blessure de gros joueurs. Donc là, en fait, ça aussi, ça va être un facteur important pour cette saison des Yankees, ça va être les blessures. Est-ce que Judge va réussir à faire une saison comme il a fait il y a 2 ans, en évitant pas mal les blessures? Est-ce que Stanton aussi, on voit qu'il est revenu au spring training un peu plus affûté? Soto, bon, ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Il y aura ça, il y aura le management d'Aaron Boone aussi, qui va être un peu, moi, je pense, sous pression, parce que ces dernières années, les fans ont pas mal réclamé son départ après des mauvais résultats. Du côté de Cashman, on continue à lui faire confiance. Moi, je pense que cette année, c'est l'année ou jamais pour au moins faire un parcours en playoff. Parce que même juste une qualification wildcard, pour moi, je pense que ça signe la fin de l'aventure Aaron Boone chez les Yankees. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est un peu la dernière chance pour Aaron Boone cette année. Donc, il y a beaucoup de pression autour de lui. Surtout avec l'alignement qu'il va avoir, la rotation qu'il va avoir aussi. Voilà, comment il va gérer tout ça, et ça va être super, super intéressant à suivre pour voir si vraiment les Yankees peuvent prétendre à rivaliser avec les gros de l'American League.
Fin du premier carton. Fin du premier carton avec notre dossier Yankees. Merci Nico pour cette analyse quand même assez détaillée sur la fin. On va passer directement au deuxième carton. Hein. Voilà, pas d'échauffement. On va parler pas de nos favoris à nous, mais on aime bien dans l'équipe chez TFA. On aime bien cette équipe. On aime bien. On aime bien. Il y a un bon mood, je pense, chez eux. C'est les Braves d'Atlanta. Atlanta, qui, on se pose la question cette fois-ci, est-ce qu'en 2024, c'est la bonne année pour eux? Voilà. Pour rappel, Atlanta, c'est la meilleure équipe de la MLB en saison régulière en 2023. D'accord? 104 victoires, 58 défaites, première place de la Ligue nationale Est. Le top joueur, c'est bien sûr Ronald Acuña Junior, avec son titre MVP. D'accord. Au niveau des runs inscrits, des runs encaissés, on est à 947 runs pour 716 encaissés. On est sur un bilan 2023 ever sous l'ère de Monsieur Snitker, pardon. Voilà. Donc on est très bien. Ouais, on est vraiment, vraiment sur une très, très bonne lignée. Là, c'est une ligne stat pour lui, c'est la meilleure. Alors, je vous remonte un petit peu, on va remonter les années. L'épopée Braves commence en 2018. Voilà. Et en fait, depuis 2018, ils sont toujours premiers tous les ans jusqu'en 2023. Donc, ils ont perdu deux fois, donc 2018-2019, la Division Series. Ils ont perdu la Championship Series l'année d'après, donc en 2020. Mais bon, en 2020, on va dire que ce n'est pas vraiment une année MLB. Hein.
Oh,
Voilà.
ça compte pour du verre.
Ouais, ça compte pour du beurre. Dédicace aux Dodgers. En 2021, ils gagnent les World Series. Voilà, ils gagnent les World Series. Et voilà, deux années de suite où on les voit chuter en Division Series. Et pourtant, cette équipe-là sur le papier, cette équipe-là, quand on les voit jouer tout au long de la saison, ils sont sous le radar tout au long de la saison, pour de vrai, eh bien, ils rebutent sur. Un favori, un petit nouveau. Enfin, il y a un grain de sable qui, dans cet engrenage qui est tellement bien huilé toute la saison, en fait, il chute vraiment sur comment dire, la pré-saison qui est pour eux normalement une voie déjà toute tracée. Voilà. Donc là, est-ce que cette année, encore une fois, donc ça fait quand même depuis 2018 qu'on le dit, est-ce que cette année, ils vont pouvoir réitérer l'exploit qu'ils ont fait en 2021? Nico, et toi tu les vois.
Si jamais ils tombent pas contre les Phillies en playoff, ouais, parce qu'ils arrivent jamais à les passer en fait.
C'est ça. C'est un peu leur bête noire,
Donc
hein, les Phillies.
ouais, c'est leur bêtement, mais je crois qu'ils ont jamais gagné contre en playoff, hein, il me semble, quelque chose comme ça, une stat un peu dans ce style-là. Ouais, non, mais en vrai, alors nous c'est une équipe comme tu as dit, la TFA qu'on aime beaucoup parce que c'est surtout la gestion de l'équipe. Moi, de mon côté, qui fait que j'aime beaucoup cette équipe, c'est que ça a prolongé tous les gros joueurs, ça a fait revenir, ça a fait venir Sean Murphy, alors que bon, il était un peu, pas dire en perdition, mais bon, il était chez les Athletics, c'était pas non plus, voilà. Et ils l'ont fait venir, il sort une saison, une super saison l'année dernière. Ils arrivent à garder leurs joueurs, hormis Dansby Swanson, mais sinon après ils ont gardé quasiment tout le monde et Freddie Freeman.
Oui.
Mais sinon, après, Ronald Acuña, il a bien dit, en plus, il a dit récemment que lui, il ne se voyait pas jouer ailleurs. Donc, ils ont vraiment réussi à créer une ossature très solide sur du long terme. Et ça, c'est très fort, avec des contrats qui sont pas forcément, qui vont pas les plomber non plus, comme a pu le faire les
Ouais.
Dodgers, on l'a vu. Et du coup, ça se construit. Alors, c'est vrai qu'ils ont pas de chance en playoff sur les 2 dernières années. Mais ça reste solide et ils ont un alignement de ouf. On parle de Matt Olson, il y a Acuña Junior, qui sait qu'on pourrait citer Michael Harris, qui est quand même qui est une étoile montante de la MLB. Et puis après, au niveau de la rotation, on a Spencer Strider, qui est quand même, je pense, un saillon en puissance. Hein. Pour moi, cette année, ça peut être l'année où il va faire, il va terminer avec 300 strikeouts ou quelque chose comme ça. Ils ont une rotation de ouf avec Max Fried. Ils ont un closer, Iglesias, qui fait quand même le taf, qui est dans le top 10 des closers de la MLB. Donc, en vrai, c'est solide à tous les postes, quasiment. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en saison régulière, il n'y a rien à dire. Et en playoff, je ne sais pas, ils perdent leur baseball, ils sont en manque de confiance. Là, sur les deux dernières années, on n'a pas retrouvé les breaks qu'on avait vus en saison. Quoi. Donc, moi, j'ai encore envie d'y croire pour eux cette année, parce qu'il n'y a pas eu de gros mouvements, ils n'ont pas perdu de gros joueurs, ils ont fait venir, ils n'ont pas non plus fait venir des gros stars, donc ils ont vraiment gardé leur ossature. Et bon, il y a Chris Sale, mais bon, ça, on verra s'il arrive à faire une saison sans se blesser. Et voilà, mais ils recrutent intelligemment, ils fonctionnent intelligemment dans cette franchise, et ils sont dans une voilà, en National League, c'est quand même compliqué quand on voit les mastodontes que sont les Dodgers ou à l'époque les Mets ou des choses comme ça. Et ils ont toujours réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc moi, j'ai encore envie d'y croire cette année. Est-ce qu'ils vont réussir à réitérer pas l'exploit, mais le fait de remporter le World Series? Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire, ouais, pour cette année.
Bon, sachant que on va avoir quand même. Alors, je rassure les fans. Ronald Acuña qui va revenir pour comment dire jouer les matchs d'ouverture. Il était parti, je crois, blessé. Hein, deux dernières nouvelles, non? Je crois qu'il y avait eu quelque chose sur lui.
Ouais, il était blessé, mais il revient pour l'opening.
Il revient. Chose exceptionnelle, on a oublié de le dire. Enfin, de toute façon, il a tellement de superlatifs, ce joueur. Il a fait l'entrée dans le club des 40-40. Donc, les 40-40, c'est 40 home run et 40 bases volées. Et il est surtout membre fondateur du club des 40-70. Mais je pense qu'il restera un membre à part entière pendant quelques années. Voilà, voire même peut-être le seul, on va dire, dans ce pauvre club qu'il a créé lui-même. Quoi. Donc, j'espère qu'il sera rejoint. Au moins, comme ça, ça voudra dire bah, voilà, que le baseball évolue. C'est surtout que, voilà, comme tu disais, l'équipe, c'est une équipe de tueurs à gages hein, en soi. Hein. Matt Olson, le second base Ozzy Albies, Orlando Austin Arcia, Riley. Austin Riley, voilà, comme tu l'as dit, Michael Harris 2, Eddie Rosario, Acuña et Marcelo Ozuna en tant que DH. Enfin voilà, on a en supplément Travis d'Arnaud qui supplée Sean Murphy, enfin vice versa. Enfin les deux, c'est honnêtement.
Ben, c'est top catcher hein, les deux.
Ouais. C'est top catcher, voilà. On a Vaughn Grissom aussi avec Orlando Garcia pour le shortstop, pour l'arrêt court. Voilà, y a, sur le papier, franchement, au niveau des frappeurs, ça roule, quoi. Il faut que ça roule. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'ils travaillent quand même un petit peu l'aspect défensif, parce que quand on regarde un peu les chiffres, voilà, ils prennent beaucoup plus de runs que les années précédentes. Voilà. Après, sur le fait d'avoir Spencer Strider, oui, il va arriver. Je pense que son objectif cette année, c'est d'arriver aux 300 strikeouts. Vu que l'année dernière, il a fait 281 retraits. Voilà. Il est arrivé top 4 Cy Young et All-Star. Voilà, rien que ça. Ensuite, vous prenez. En fait, je ne vais pas dire que les équipes des Phillies et des Braves se ressemblent sensiblement, parce qu'on a beaucoup plus de gros noms, du côté des Braves quand même. Mais en termes de lanceurs, le némésis de Strider, finalement, c'est Zach Wheeler, qui reste, là on l'a appris il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui reste quand même à Philadelphie. Ouais, voilà. Donc les deux, ils vont se tirer la bourre en Ligue nationale Est, et je pense que cette année, ça va être super beau à voir. Quoi. Voilà. Ça va être le top du top. Là, le pôle des lanceurs chez les Braves, franchement, il est génial, quoi. En plus, si vous rajoutez Max Fried dedans, bon, il a été absent 3 mois, mais là, il devrait se montrer quand même assez convaincant. Il y a Charlie Morton, qui est un vétéran, mais bon, Il s'en tirera moins seul au niveau vétéran parce qu'on a parlé de Chris Sale qui arrive tout droit de Boston. Christelle, ouais. À la surprise générale, ça c'est, il faut le dire, à la surprise générale. Voilà. Le gars arrive, il fait son meilleur spring training de sa vie. Et à Boston, en fait, les spring training, ben, il les a passés dans le dugout avec un plâtre ou alors complètement assis sur son canapé à regarder. Quoi. Donc là, ben, j'espère et je l'espère vraiment pour ce joueur. Qui pourra faire une excellente saison, qui pourra venir étoffer vraiment le pôle des partants, car c'est un super gaucher. Et franchement, ces sliders sont hyper belles à voir et j'espère encore les voir cette année. Je sens qu'ils se blessent non plus sur des choses, on va dire, bêtes. Quoi. Voilà. Après, voilà, comme tu dis, Reynaldo Lopez en acquisition au niveau des releveurs, voilà, quand vous voyez un peu l'unité spéciale, on va dire ça comme ça, avec AJ Minter, Tyler Matzek, Josh Jiménez et Pierce Johnson. Franchement, au niveau de la relève et du closing, les alignements ils vont avoir du taf. Hein, parce que là, on est sur un gros, gros pôle de lanceurs. Voilà. Donc, on peut dire que là, les Braves sont archi favoris hein, sur cette NL Est, hein, finalement, sur la Ligue nationale. Voilà. Oui. Donc, tant le travail effectué pendant l'intersaison, en fait, il a été de qualité, comme tu l'as dit et souligné, exceptionnel. Et je pense qu'ils ont réussi de manière créative à combler les trous qu'ils avaient. Et ça sera la bonne. Moi, franchement, je pense, s'ils ne rencontrent pas les Phillies, bien sûr. Ou alors, ils conjurent le sort cette année et les Phillies, ils les plient et ils vont au bout. Voilà. S'ils rencontrent les Phillies et qu'ils les plient, je pense que la voie est déjà tracée. Voilà mon analyse pour les Braves.
Ah, c'est sûr, ce sera à tout tracer. Après, il restera quand même les Dodgers, hein, faut pas les oublier. Mais ouais, non, franchement, ouais, c'est, tu le dis, ils sont complets partout.
On ne les oublie jamais. Quand on voit qu'ils chutent, on ne vous oublie pas. Voilà.
On ne peut pas vous oublier. Même quand on essaie de ne pas penser à vous, vous revenez.
Mais voilà, non, voilà, ils sont voilà pour les Braves. C'est, donc,
c'est moi, ouais, c'est. En fait, si on regarde sur les saisons, sur la dernière saison, on enlève le playoff, mais si on regarde sur les saisons, c'est pour moi l'équipe la plus plaisante à avoir joué. Parce que ça régale au pitching, comme ça régale après la frappe. Il se passe toujours quelque chose. C'est comment dire, c'est régulier. Enfin, il y a un management qui est super intéressant de la part de Snitker. Et bizarrement, après ça s'écroule en playoff, mais on a toujours en fait cette sensation que bon, c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Moi, sur les deux dernières années, c'est ce que ça m'a fait en fait. Je me suis dit, bon, ils ont perdu contre les Phillies. C'est vrai qu'il y a le momentum avec les Phillies, on l'a vu sur les deux dernières années, porté par leur public, tout ça. Voilà, il se passe quelque chose en playoff, mais ils ont quand même pour moi tout d'une équipe qui peut devenir pas une dynastie, mais une équipe qui jouera souvent des World Series.
Ouais, non, la dynastie, c'est trop loin pour en parler. Parce que,
non, mais j'entends pas la dynastie. On va pas dire dynastie parce qu'ils ont rien gagné. Enfin, une fois, mais je veux dire par là, ça peut être ça une équipe qui peut devenir une dynastie. Tu vois, une équipe qui peut devenir super régulière et chaque année atteindre un niveau. Toujours plus haut. Ouais. Parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Hein, donc,
bien sûr. Puis ils rajoutent, là, tu vois, cette année, Jared Kelenich, qui vient de Seattle. Mmh. Les voltigeurs, derrière, ils vont avoir un peu de turnover, tu vois. Ça va être pas mal. Ils vont peut-être pouvoir récupérer un petit peu plus, quoi, au niveau de leur santé. Donc, à voir. À voir pour ça. OK. Fin du carton Braves. Et ben maintenant, on va passer au troisième carton. Et on va passer aux champions en titre, les Texas Rangers. Et alors, chaque année, on se pose la question, de toute façon pour le champion, est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser un back-to-back? Ça, c'est moins sûr, peut-être. On ne sait pas. En tout cas, pour moi, les Rangers, franchement, ils ont été, en 2024, ils sont logiquement favoris après leur incroyable saison, sous l'effet, et tu l'as... Tu as eu la chance de l'interviewer, Nico, c'est Bruce Bochy. Mmh. Tu es allé à Toulouse, hein, c'est ça, pour l'interviewer,
ouais, à Toulouse,
il me semble. Voilà. t'as interviewé un mec qui a des bacs de World Series, quoi. Donc, incroyable. Quoi.
Bah ouais.
Et avec ce monsieur, ben voilà, là, franchement, avec ce qu'ils ont, ils peuvent prétendre, encore une fois, à une belle épopée. Voilà. Sachant que début février, ils ont obtenu la signature encore de Adolis Garcia, de 2 ans et 14 millions garantis. Adolis Garcia, il a été, on va dire, la pierre angulaire des Rangers, je pense, sur la saison régulière. Après, il s'est blessé en après-saison, donc on ne l'a plus vu. C'est qui a été dommage, parce que je pense qu'il aurait encore plus écrasé, on va dire, la concurrence. Voilà. Mais derrière, on a Corey Seager ou Marcus Semien. Voilà. Ça, c'est
Marcus Semien qui joue quasiment tous les matchs chaque saison. Il est incroyable, ce mec.
Ouais, il a une forme physique vraiment à toute épreuve. À toute épreuve. Mm. Ça c'est vraiment pour moi le top du top du joueur. Quoi. Voilà. Et on va parler bien sûr des lanceurs, parce que chez les Rangers, quand même, on a des pointures, mais des pointures blessées pour l'instant. Jacob deGrom, opération du coude, retour prévu en août 2024. Et Max Scherzer, blessé aussi, pour un retour en deuxième partie de saison. Donc je pense que après les fameux All-Star Games, on va avoir DeGrom, on va avoir Scherzer, on va avoir Nathan Eovaldi, on va avoir Tane Dunning. Il y a beaucoup de place quand même pour un seul fauteuil d'Ace. Hein. Il y a beaucoup de joueurs hein, pour un seul fauteuil de favori, Nico, quand on regarde les noms. Est-ce que tu vois les vétérans plutôt suppléer les nouveaux qui ont, comment dire, su élever leur niveau l'année dernière? Nathan Eovaldi, déjà, était un lanceur partant phénoménal à Boston. Là, il a complètement crevé l'écran sur ses sorties. Dane Dunning, pareil. Voilà. Est-ce que toi, pour toi, les deux vétérans, là, ils vont être plutôt sur la défensive, donc ils vont ménager leurs coudes ou leurs blessures, et histoire de faire souffler un peu ceux qui étaient là l'année dernière, et ils sont favoris encore cette année, pouvoir jouer. Est-ce qu'ils vont pouvoir les suppléer?
Eh bien, déjà, je trouve que la rotation, elle va perdre beaucoup avec le départ de Jordan Montgomery. Je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un des grands artisans aussi du parcours jusqu'au World Series. Ouais. On parle de Montgomery chez les Red Sox, donc je ne sais pas trop, on va voir où est-ce que ça va terminer cette histoire. Mais ce serait une grosse perte. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est quand même très vieillissant. Tu as DeGrom, je les ai notés, hein. DeGrom, il a 35 ans. Eovaldi 35, Scherzer 39, Yes Kirby 36. Je trouve que c'est assez vieillissant. Alors, du coup, le risque de blessure est peut-être un peu plus aussi important. Alors, DeGrom, on n'en parle pas parce que bon, c'est une saison sans blessure, c'est pas une saison pour lui. Mais moi, je suis pas dire inquiet parce qu'ils ont quand même un super groupe et tout, mais c'est au niveau des lanceurs partants. Pour moi, le back-to-back, il reste quand même très compliqué. En plus, on le voit depuis. Ça n'a jamais été fait depuis les Yankees. Et encore, c'est même pas un back-to-back, c'était un circuit. Il avait gagné 3 fois de suite dans les années, début des années 2000, 98, 99 et 2000. Et depuis, aucune équipe n'a réussi à faire un back-to-back. Et je pense que cette année, ce sera pareil. Ce sera pas. Eux, ils vont. Le back-to-back, j'y crois pas trop. Dans la mesure où. Voilà. Où ils ont une rotation assez vieillissante. Scherzer, c'est pareil. C'est la dernière saison, c'est quand même pas mal de blessures. DeGrom, c'est pareil. Et Eovaldi, bon, ça, je n'ai pas forcément trop d'inquiétude sur lui. Donc, non, je suis très inquiet sur cette partie-là, en fait. La partie pitching et surtout les lanceurs partants. Après, ils ont quand même un coach qui va savoir gérer tout ça. Ils ont un super groupe, un super alignement. Tu as parlé de Corey Seager, Semien, Garcia. Voilà, ça reste quand même c'est très très solide. Mais dans une division où il y a les Astros et tout, c'est, je sais pas. J'ai du mal à les voir réitérer l'exploit de l'année dernière.
Ouais. Quand on voit la moyenne d'âge, c'est vrai, sur l'équipe, là, en termes de contrat, on est au-delà des. À vue d'œil, hein, on est au-delà des 28 ans, hein, même, voire même on arrive aux 30, hein, aux 30. Donc est-ce que l'année dernière, en fait, c'était les planètes étaient alignées, basta, et ils ont joué le jeu jusqu'au bout et ils sont sortis vainqueurs. Voilà. Et là, bah, cette année, ça, on va être peut-être dans le déclin, sachant que bah, voilà, hein, certains contrats, ça finit en 2025 pour certains, 2026 après. Est-ce que cette année, ça va être la dernière année où ils vont pouvoir peut-être aller monter au plus haut? Et après, en 2026, bah, du coup, ils vont effacer et reprendre peut-être des nouveaux joueurs. Voilà, on ne sait pas. Alors, c'est vrai que pour toi, quand tu dis que le back-to-back, ça va être compliqué, oui, moi, je te rejoins aussi sur ça. C'est vrai que, bon, c'est plaisant à voir, hein, les Rangers, hein, franchement, on les attendait
Ah ouais, non,
vraiment,
mais...
vraiment pas à aller jusqu'au World Series, tu vois. On les attendait vraiment aller en après-saison parce que, voilà, ils ont des joueurs de classe mondiale, internationale. Sur ça, ça
C'est
a
un
été le
super beau
top, quoi.
champion, on est d'accord. Là, il n'y a
Voilà.
rien à dire.
Et puis, il faut surtout souligner, c'est que l'année dernière était une année de WBC, donc la World Baseball Classic, a laissé des traces physiques sur des joueurs qui ont joué avec leur pays, on va dire, juste avant le début, comment dire, du championnat. Enfin, voilà. C'était quand même des matchs assez soutenus, assez en tension. On l'a vu avec rien que Edwin Diaz des Mets qui s'est blessé sur, on va dire, ben, d'avoir fêté la victoire, quoi. Rien que ça déjà. Donc c'est vrai que les Rangers, ben ouais, j'ai envie d'y croire quand même, mais je me dis que effectivement, quand tu regardes l'âge, quand tu regardes un peu comment dire, l'expérience des joueurs, ouais, c'est vrai que ça va être assez compliqué pour les partants, pour les lanceurs. Après, je pense que pour les frappeurs, ils ont encore leur jeu à faire, leur coup à faire, hein. Ça va être bien de les voir. Moi, je pense que ça va être pas mal de les voir quand même frapper. Voilà. Ils
Ouais, non, mais
ont une
l'alignement, il
série.
reste quand même solide, hein, on est d'accord, hein. Moi, sur
Ils ont
l'alignement,
un très très bon alignement. Ouais, pour moi,
ouais, bon,
oui.
on l'a vu en playoff, ils ont quand même réussi des grosses perfs offensivement. Et voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment sur le côté rotation et lanceur partant, c'est là où j'ai le plus peur, en fait. Pour moi, laisser partir Montgomery, au vu de ce qu'il a fait en playoff l'année dernière, je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir un bon contrat et de rester chez les Rangers. Surtout que après bon, c'est pas un joueur qui a forcément brillé durant toute sa carrière, mais là je sais pas, j'ai senti sûr de lui de ses lancers quand il était en playoff. Et je pense qu'il a peut-être bien qu'il le garde une année supplémentaire au moins. Donc son départ va laisser un vide. Après, DeGrom, va falloir vraiment voir où est-ce qu'il en est. Scherzer, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est vieux, quoi. Donc, pour moi, comme tu l'as dit, les planètes étaient alignées l'année dernière. Et ça a marché. Mais là, l'exploit de faire un back-to-back, moi, j'y crois pas du tout. Alors, je ne veux pas mettre le moral à zéro aux fans des Rangers parce qu'ils vont sûrement y croire plus que moi. Et puis, ils ont peut-être raison, hein, parce que moi je suis pas forcément niveau prono, il y a meilleur que moi, mais
Meilleur que Nico, c'est clair.
c'est pas compliqué, mais non, non, voilà, je sais pas, moi je suis pas hyper emballé sur le fait que il puisse réaliser cet exploit, surtout qu'on le voit, jamais aucune équipe l'a réussi, et pourtant il y a eu des équipes qui ont été voilà, dominantes. Pense aux Astros quand même, mais ils n'ont jamais réussi un back-to-back, ils ont mis du temps à regagner un titre après. Voilà, on voit que c'est un parcours, c'est compliqué. Et comme on l'a vu l'année dernière, c'est aussi une histoire de momentum. Et ben ils ont eu le momentum à ce moment-là, comme les D-backs, comme les Phillies l'année d'avant. Voilà, ils ont surfé sur ça, donc on ne peut pas trop se raccrocher à ça non plus. Donc. C'est pas une équipe qui a dominé sa division haut la main. C'est pas une équipe qui a fait parler d'elle forcément de façon, comment dire, avec tellement de superlatifs en disant que c'est une super équipe durant toute la saison. Et ils ont fait un petit bout de chemin. Donc Ça a marché l'année dernière, mais cette année, ouais, je ne crois pas du tout.
D'accord. Ok. Bon, bah, fin du carton Rangers. On termine. Bah, on va terminer ce match. Allez, avec la dernière Allez. Question, dernier thème. Le voilà sur les chouchous, on va dire, au début, les Diamondbacks de l'Arizona. Donc l'année dernière, ils finissent deuxième. Deuxième avec 84 victoires et 78 défaites. Voilà. Avec un top player, le fameux, le rapide Corbin Carroll, avec une WAR de 5.4. Et quand on regarde un peu l'histoire de la franchise et qu'on remonte dans les années 2000, début des années 2000, là où un certain Randy Johnson était l'artisan de la victoire des Diamondbacks en World Series, donc en 2001. Ce qui est marrant à voir, c'est que ils gagnent donc en 2001, ils perdent les Division Series l'année suivante et après, 1, 2, 3, 4 saisons, rien. 2007, ils arrivent avec une défaite en Championship Series. 3 saisons, rien. 2011, ils perdent encore une fois en Division Series. Là, on part sur 5 saisons complètement nulles, où ils perdent en 2017, encore une fois, voilà, Division Series. Et encore une fois, un trou de 5 saisons pour arriver en 2023 à une défaite en World Series. Voilà. Donc, est-ce que on peut penser que, on ne croit pas non plus hein, à la loi des séries, hein, ce n'est pas une coïncidence. Hein. Mais voilà, est-ce que, comme tu l'as clairement notifié dans ta question, qui est vraiment sympa, c'est un simple hit automnal, ou alors est-ce que ça s'attend à voir les Diamondbacks aller en Division Series, en Championship Series, voire même en World Series dans les 3-4 années qui vont arriver?
Moi, j'ai envie d'y croire. Ils ont un groupe assez jeune. Ils ont prolongé leur manager. Ils lui ont fait confiance alors que bon, il était à la tête de l'équipe quand ils ont terminé. C'était il y a deux saisons de ça avec 100 défaites. Ils reviennent de loin. L'année dernière, on va dire que c'est un petit peu l'équipe surprise plus que les Rangers, je trouve, parce que bon, les D-backs, déjà dans une division où t'as les Padres, quand on voit les Padres l'année dernière, les Dodgers, même les Giants, on est à milieu d'imaginer les voir déjà se qualifier en wild card. Déjà.
Ouais, carrément.
Et ils réussissent cet exploit-là, grâce aussi un petit peu à l'effondrement des Cubs, mais aussi parce qu'ils font un mois de septembre de fou. Et puis après, comme on l'a dit pour les Rangers, c'est la même chose. Hein. Ils ont eu le momentum durant tous ces playoffs. Alors ils arrivent à. Ils ont balayé les Brewers, ils ont balayé les Dodgers, et ça, je crois qu'en fait, c'est peut-être ce qui les a reboostés encore, enfin, pas reboostés, mais qui leur a vraiment donné toute la confiance possible, c'est vraiment de sweeper les Dodgers. Parce que personne n'aurait misé sur ça. Et en fait, ils ont la fougue un petit peu de la jeunesse, donc en fait, ils n'avaient rien à perdre. Et ils ont réussi un parcours incroyable. Et je trouve que là, ils font pas parler d'eux pendant l'intersaison. C'est pas une équipe qui a voulu surfer sur le fait qu'ils étaient en World Series et du coup recruter des gros noms, faire parler d'eux. Ils continuent à travailler dans l'ombre. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Alors, est-ce que cette année, ils vont retourner en playoff, retourner en wild card, refaire un parcours, ne serait-ce qu'un champion de series ou je sais pas trop. Ça reste un peu encore flou, mais j'y crois, ouais, je pense que c'est une équipe en devenir, c'est une équipe qui a un bel avenir, qui va garder cette philosophie qu'ils ont de miser sur les jeunes, et on voit que ça marche, et c'est carrément l'opposé des Dodgers, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même fonctionnement de gestion de franchise. Et pour moi, ils n'ont même pas la pression, en fait, puisqu'ils n'ont pas gagné. Ils ont fait un beau parcours, mais ils vont recommencer une saison, en fait, sans une étiquette de favori ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est bien, ils avancent dans l'ombre, ils continuent à grandir. C'était une expérience l'année dernière. Peut-être que cette année, ils auront une saison plus compliquée, on sait pas, on verra. Mais c'est une équipe qui a un bel avenir, ouais, je trouve.
Ok. Ouais, c'est à peu près le même sentiment que j'ai par rapport à toi. C'est une équipe qui est vraiment. Moi, j'ai bien aimé les suivre parce qu'en fait, c'était la jeunesse, en fait. Il y avait certains jeunes qui étaient comme bah, Corbin Carroll, quoi. On attendait tous cet exploit qui tape un extra base hit qui aille vraiment limite en troisième base, quoi. Tu vois, qui fasse un triple direct, quoi. C'était l'attraction du moment, quoi, sur
Il y
ça.
avait lui, il y avait
Et puis,
Ketel Marty aussi qui a vraiment
Ketel
fait des
Marty,
playoffs
bon,
incroyables. Il a
ouais.
serré une série de matchs avec des coups sûrs. Je crois qu'il a un record, quelque chose comme ça. Enfin,
C'était
c'était.
le joueur à suivre sur la pré-saison. Sur la pré-saison. Et sans me jeter des fleurs, je l'avais notifié déjà l'année dernière dans les previews des post-season que Ketel Marty allait faire vraiment parler de lui. Ça n'a pas loupé. Bah, tant mieux. Au moins comme ça, on n'est pas. J'ai pas menti quoi, sur ça. Des ajouts, Jock Peterson qui arrive.
Ouais,
Penses
l'expérience, ouais.
quoi? Petite expérience d'un
Bah, c'est
an,
une bonne
12 millions
annonce.
5, ça va?
Ouais, bah c'est. Ouais, voilà, c'est pas un gros contrat. Ils se foutent pas une balle dans le pied. Ils font venir un mec qui a de l'expérience, qui a connu pas mal de franchises, mais qui a quand même laissé une trace dans chacune des franchises, je trouve. Enfin, une trace, j'entends par là. Il n'a pas marqué l'histoire de chaque franchise non plus, mais il a fait son taf partout où il est passé, je trouve. Et là, ça va être la même. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment trop d'inquiétude. Et il va apporter peut-être cette expérience en plus auprès des jeunes, les aider aussi dans leur évolution. Donc, moi, c'est une belle recrue. Ils ne prennent pas de risques. Un an, c'est rien. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Financièrement, ils ne se mettent pas une balle dans le pied. Et, non, non, moi, je trouve que c'est très intelligent. Ouais. C'est un move très intelligent, je trouve.
Sachant que ouais, aux Giants, c'était pas mal. Il faisait partie quand même des top players chez les Giants quand on le suivait.
Ben
Je
exactement,
pense
ouais.
que un bon voltigeur qui a une certaine puissance de frappe quand même. Donc ça peut être intéressant pour les Diamondbacks hein, en soi. Franchement,
Ouais.
j'attends de voir.
Un
J'attends de
frappeur
voir.
désigné, par exemple, pour ouais, ça peut être
Ouais.
pour renforcer l'alignement,
Après,
ouais.
tu sais, ils peuvent toujours rajouter aussi l'arrivée de Randal Grichuk, hein, des Rockies.
Ouais.
Voilà, pareil, hein, 32 ans, right fielder. Voilà. On le voit vraiment sur une rotation DH, on va dire, avec lui, quoi. Et après, aller de temps en temps un peu sur en outfield, quoi, directement. Après, au niveau des starting pitchers,
Zach
Merrill
Galen.
Kelly, voilà,
Ouais.
Zach Gallen, Monsieur Lunette, ça c'est
Ouais.
vraiment impressionnant à le voir jouer. Moi pour moi,
Castro aussi,
franchement,
ouais. Non,
incroyable.
mais ouais,
Ouais.
il a fait une saison, voilà, il va falloir qu'il confirme. Mais
Ouais.
après, bon, en playoff, ça a été un peu plus compliqué qu'en saison, j'ai trouvé pour lui. C'est beaucoup l'attaque qui a maintenu les D-backs quand même durant cette campagne de playoff. Mais ouais, c'est un lanceur que je veux surveiller voilà, cette saison parce que ouais, moi, il m'a fait forte impression l'année dernière et j'aimerais bien qu'il confirme parce que c'est un lanceur que j'aime beaucoup regarder. Et
Effectivement, ouais.
voilà, et l'avenir, quoi, c'est 95, donc c'est vrai qu'il n'est pas très, 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 très vieux. Donc, non, c'est
C'est
bien.
ça.
Moi, c'est un joueur que j'ai envie de suivre. Avec Corbin Carroll, c'est les deux qui m'ont beaucoup impressionné l'année dernière, en saison
Ouais.
régulière, après Marty en playoff. Mais voilà, à suivre. Ouais.
Et qu'est-ce que t'en penses de leur ajout d'Eduardo Rodriguez des Detroit Tigers.
Ouais,
Il arrive là.
un avis,
Il est
ouais.
arrivé là. Il est arrivé avec son contrat. L'année dernière, il a refusé un contrat. Hein, faut le savoir. Hein. Il était resté à Détroit. Il avait refusé un trade. Je ne sais plus avec quelle équipe. Il avait refusé un trade et il était resté à Détroit. Il avait fait une grosse saison. Là, cette année. Ils ont rajouté un autre un autre gros lanceur partant, quoi, finalement. Après, tu vois vraiment que ça va être intéressant à voir jouer, quoi. Enfin, là, on voit dans son contrat, en gros, en 2026-2027, s'il arrive à lancer 150 manches, il a un bonus de $500,000 déjà en plus. Bon, voilà. On est sur des clauses de contrat, voilà, qui sont pas mal pour lui. Je pense que ça peut être un atout et un ajout majeur dans le pôle département. Voilà. Et il ne faut pas le sous-estimer parce que.
Il a des belles stats l'année dernière quand même. Il a 3,30 de IRA, 143 strikeouts sur 152 manches lancées. Un bilan de 13 victoires et 9 défaites. Donc, non, c'est, ouais, ça va solidifier cette rotation. Donc, en plus, il a l'expérience, il a 30 ans. Donc. C'est intelligent en fait. C'est vraiment, ils apportent l'expérience à la jeunesse et franchement, c'est hyper intéressant. Ouais.
Un très bon gaucher à suivre, franchement, sur cette saison. Ça va être vraiment bien. Ok, on arrive à la fin de notre match, hein, 50 minutes, sur nos quatre thèmes du choix du jour. Donc, les Yankees pour toi. On va faire un récap. Les Yankees pour toi. À quelle place tu les vois ? Je sais que journalistiquement, on est obligé de faire un classement. On est obligé. Je rejoins Chris avec Charles qui ont parlé lors du dernier The First Speech que en fait, ça sert à rien de faire des hypothèses, des choix, tout ça, parce qu'en fait, on sait très bien que le sport, c'est ça. Le sport, c'est justement beau pour ça. Parfois, on n'arrive pas du tout à voir ce que l'on veut sur le papier. Voilà, c'est l'inconnu. Mais là, si on doit faire un choix, les Yankees, tu les vois à quelle place de la division Est en American League ?
C'est compliqué parce qu'avec les Orioles. Allez, moi en première place.
Ok. Atlanta.
Première place.
Ok. Les Rangers.
Troisième place.
Et les Diamondbacks.
Deuxième place.
Ok, j'ai noté Nico. Je saurai m'en rappeler lors de la fin de saison.
Ouais. Donc les Yankees ont terminé troisième.
Tout le contraire.
Ah bah non, c'est sûr. Les Braves ont fait venir deuxième. Non mais tiens, c'est une catastrophe. Moi, je suis nul en pronos, donc.
Ok, ça marche. Écoute, merci de l'analyse, Nico, en tout cas. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ah, tu veux que je donne mes refs ? Ok, d'accord. Moi, les Yankees, je les vois en deux. Les Braves en un, les Rangers en deux et les Diamondbacks en deux aussi. Voilà.
Ouais. Moi, je fais de la lèche avec les Yankees pour que le boss il soit content.
Voilà mon choix. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés sur The First Speech. N'oubliez pas, on est sur une nouvelle saison de MLB The Show, le jeu vidéo référence de baseball sur TFA, bien sûr en français, auquel je fais les articles de présentation, du gameplay, des nouveaux modes de jeu, etc. Donc là, il y a un nouvel article qui est sorti sur le gameplay et sur le mode de jeu What to the Show. On va arriver bientôt à l'ouverture du jeu, donc dans deux semaines. Et on a hâte. Donc, suivez bien les previews MLB The Show et surtout, suivez-nous sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux pour The Free Agent. Je te remercie, Nico. Passe une belle après-midi et à bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Allez, ciao.